Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 21 mars, il est 8h30, des proches avaient donc raison, le mois de mars n'a pas passé l'hiver, c'est le printemps depuis hier, allez les beaux jours arrivent, promis, même si bon, c'est pas trop le cas en ce début de semaine, il sourit depuis hier, 16h33 et l'équinoxe de printemps, parce que c'est le printemps justement, à la technique Corto, salut.
Salut, salut, espérons que le froid s'en aille assez sous peu. Hein.
Ça va venir, ça va venir. Un peu de flotte, ça fait pas de mal non plus. Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Florence Choquet par téléphone de Cévennes Durable, un collectif citoyen qui appelle à participation pour un financement en vue de l'installation de 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, je vais y arriver, sur la toiture du bâtiment de pôle agri-alimentaire de Saint-Julien-des-Points. On parlera du projet et de ce qu'est Cévennes Durable avec elle. Il n'y a plus de logique et Raphaël viendra nous faire sa chronique Histoire Brève. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, il va s'agir de sport. Et en dernière partie d'émission, je suis parti à la rencontre d'Adrien Coraggio, qui est auteur. Il faisait des lectures la semaine dernière à Saint-Laurent-de-Trèves. Ce sera en dernière partie d'émission. La musique aujourd'hui, c'est 100% Moustaki. Et on y va, mon Corto, pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Dans un monologue habillé en conférence de presse et consacré à la présentation de son programme, Emmanuel Macron a déclaré, rapporte Le Monde, qu'il souhaitait conditionner l'ouverture du droit au RSA à, je cite, « l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle ». Il précise ensuite « je n'ai pas voulu le RSA pour les 18-25 ans et je l'assume totalement parce que je considère que c'est en quelque sorte nous satisfaire d'une idée qu'on traiterait la pauvreté ou la précarité uniquement à travers des prestations monétaires. Oui, il faut des prestations monétaires, mais il faut, en plus de ça, reconnaître la dignité de chacun, demander une part d'effort pour toutes celles et tous ceux qui le peuvent. » Bon, ces propos visent d'abord à stigmatiser les plus pauvres et à les livrer à la vindicte notamment des plus riches qui vont discuter de leur sort. La mise en question permanente des droits des plus pauvres, le fait d'alimenter les soupçons vis-à-vis des allocataires d'IRSA est une attaque directe contre les personnes concernées. Ces propos méconnaissent la réalité des personnes qui vivent au RSA, déjà soumises à des obligations administratives très lourdes et à qui on ne laisse ni le temps ni les moyens de construire leur vie dans de bonnes conditions. Comme s'il ne suffisait pas de lutter pour sa survie économique, il faut en plus supporter les mises en question permanentes par un président de la République qui s'est toujours opposé à soutenir le revenu ne pas soutenir le revenu des plus jeunes et des personnes pauvres sans ressources. ATD Carmonde a dénoncé le 16 mars dernier dans un communiqué ses propositions. Je cite « Derrière elle se cache l'idée selon laquelle les allocataires des minima sociaux seraient des assistés qui profitent du système, alors qu'une majorité d'entre eux se démènent chaque jour. Rappelons que le RSA n'est pas un choix, c'est le dernier filet de la solidarité nationale. Et surtout, vivre avec à peu près 500 balles par mois, c'est chaud, cela va sans dire. Tiens, et si maintenant les allocataires du RSA doivent bosser 15 à 20 heures par semaine, pourquoi ne pas faire de vrais contrats de travail avec cotisation pour la sécu, le chômage, etc., la retraite? Et à quel moment ces mêmes personnes pourraient-elles trouver un emploi, un vrai, qui les épanouit si elles bossent l'équivalent d'un mi-temps? Et pour quel genre de job en plus? Non, décidément, il y a des choses là-dedans totalement en décalage avec la réalité. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Allez, on parle de Cévennes Durable dans un instant. On écoute d'abord Moustaki sans la nommer, tu m'étonnes.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Moustaki, sans la nommer, de retour en plateau avec par téléphone Florence Choquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous m'entendez bien ?
Oui, oui, tout va bien.
C'est parfait. Vous êtes avec nous pour le collectif Fesseven Durable. Vous avez un projet de panneau photovoltaïque à installer sur la toiture du bâtiment Pôle Agri-Alimentaire de Saint-Julien-des-Points. On va en parler, mais déjà qu'on comprenne bien, c'est quoi le collectif Fesseven Durable ?
Alors, c'est en fait un regroupement de bénévoles hein, qui a l'initiative d'un habitant des Cévennes, de la Vallée Longue, a souhaité créer une dynamique autour de cette question des énergies et des énergies renouvelables en particulier. En fait, ce collectif existe depuis 2014. Alors en 2014, l'énergie, c'était une thématique dont on parlait encore pas beaucoup. Et surtout, on n'en parlait pas beaucoup d'un point de vue production locale et d'un point de vue réapproprier ça par les citoyens. Mmh. Alors aujourd'hui, le contexte est en train de changer quelque peu, bien sûr. Mais voilà, notre idée, c'était de parler de ça, de parler de cette question déjà, premièrement, parce que bah, bien sûr, on était tous conscients du fait que les énergies fossiles étaient plus que limitées et que de ce fait, ça allait poser problème, et notamment le problème du coût aussi, hein, du coût d'achat de cette énergie. Mmh. Et puis, bien sûr, en fond de mire aussi, il y avait cette question de lutter contre les émissions de CO2 et puis, bien sûr, qui génère ce changement climatique qu'on perçoit encore mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
Mmh, c'est sûr.
Voilà. Et puis, comme je vous disais aussi, c'était de parler de cette question des énergies, parce que ce soit le citoyen et les collectivités, en fait, on avait tendance à se dire que voilà, c'était comme ça, le réseau existe, on consomme, on paye, voilà. En fait, là, l'idée, c'est de se dire, ben, justement, on peut aussi produire et produire localement et des énergies renouvelables. Donc, c'est quand même ces points-là qui étaient importants pour nous.
Mmh. Qui peut être sociétaire et s'il en est, comment on devient sociétaire de Cévennes Durable ?
Alors, effectivement, vous employez un mot qui peut poser question. On est sous forme, mais ça c'est juridiquement obligatoire, hein, d'être sous forme d'une société. Alors nous, on a choisi la SAS, Société Action Simplifiée, qui est le système le plus souple et léger, je dirais. Mm-hmm. Voilà, parce que l'idée, c'est de collecter une partie d'investissement citoyen, c'est-à-dire que les citoyens qui le souhaitent deviennent membres actionnaires quelque part, hein, mm-hmm. de la SAS. Et en fait, on peut être membre à partir de 50 euros. Mm-hmm. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a été reconnu et donc soutenu par la région depuis l'origine, en fait. Et il y a un dispositif particulier qui permet que la région mette un euro supplémentaire chaque fois qu'il y a un euro citoyen investi. Voilà, donc c'est aussi intéressant pour ça, parce que ça nous permet d'obtenir une masse de financement un peu plus importante.
Et là, pour être sociétaire, on va sur votre site seven-durable.fr, il y a toute la démarche, hein, c'est ça?
Voilà, il y a toute la démarche, et puis on a aussi ce mardi, demain soir en fait, une soirée aussi au Collet de Bèze, où on va présenter ce projet, où il y aura aussi d'autres acteurs de cette transition énergétique, on va dire, qui seront présents donc à partir de 18h30 à la salle polyvalente du Collet de Bèze. Donc c'est une manière aussi de nous connaître et puis de discuter, de voir un petit peu très concrètement ce qu'on fait, puisque pour dire en deux mots, le très concrètement, c'est effectivement créer des installations. Alors pour l'instant, uniquement de photovoltaïque, mais pour l'avenir, on souhaite aussi développer des installations autour du bois énergie. Parce que c'est en fait quand même les grandes ressources qu'on a sur nos secteurs, c'est le bois et l'énergie. Alors le bois, pas n'importe comment, hein, on ne veut pas considérer le bois comme quelque chose qui est un déchet quelque part, mais non, les forêts peuvent avoir d'autres produits. Donc il faut aussi là réfléchir à le bois énergie quand on ne peut pas faire autre chose du bois. Voilà.
En attendant, c'est les panneaux photovoltaïques, comme vous l'avez dit, qui ont la primeur. Et là, c'est parti. Vous lancez cette fois-ci une campagne de financement participatif. Expliquez-nous tout.
Alors, l'idée, c'est effectivement de collecter un financement auprès des citoyens qui le souhaitent pour faire cette installation qui sera, comme vous l'avez cité, sur le pôle agroalimentaire de Saint-Julien-des-Points. Alors pour l'histoire, ce bâtiment a été conçu de la façon la plus vertueuse possible, c'est-à-dire avec des matériaux biosourcés, donc par exemple ossature, bardage bois, une phytoépuration et une isolation aussi la plus performante possible. Et donc les panneaux photovoltaïques vont venir compléter tout ce dispositif-là. Et le financement participatif nous est nécessaire. Alors, pour rentrer un peu dans les méandres de tout ça, c'est en fait qu'on a aussi une certaine difficulté à obtenir des aides des banques, des prêts. Ouais. En fait, si vous voulez, les banques sont intéressées par des gros projets, mais des petits projets comme celui-ci, ça les intéresse finalement pas énormément. Et donc, à la fois cet intérêt de faire participer les citoyens à quelque chose de très concret, hein, parce que là au moins on se dit, bah voilà, je sais que c'est mes 50 euros, mes 100 euros, ils vont servir à créer cette installation et donc à produire de l'énergie concrètement renouvelable. Voilà. Mais aussi c'est un moyen pour nous d'arriver à boucler le financement de ce projet et de pouvoir le mener à bien.
Alors, j'ai peut-être mal cherché, mais j'ai pas trouvé le lien pour participer au crowdfunding. Comment ça se passe?
Alors en fait, pour l'instant, ça se passe effectivement via notre site ou par rencontre avec certains d'entre nous. On commence comme ça, cette campagne, et puis effectivement, on aura probablement d'ici un mois ou deux, on ouvrira aussi une plateforme. Mais pour l'instant, c'est possible via notre site de contribuer.
Et demain, évidemment, la salle polyvalente du Collet de Bèze. Les clichés sur les panneaux photovoltaïques, on l'a dans dur, hein, notamment sur les moyens qui sont mis en œuvre pour les produire. Mais vous avez mis sur votre site un lien pour expliquer que malgré ce que l'on pense, les panneaux photovoltaïques sont une énergie propre.
Alors, c'est vrai que c'est en général la crainte des personnes, hein, de se dire, ils ont un bilan qui est... pas évident entre la production et aussi les filières de démantèlement, hein, en fait, et de récupération de ces panneaux. En fait, évidemment, là aussi, il y a des progrès qui se font moins vite que dans d'autres secteurs parce qu'on a moins mis de fonds pour le faire. Mais aujourd'hui, ils ont des technologies qui sont effectivement moins impactantes pour l'environnement, et de même les filières de recyclage sont mieux organisées et donc ont un meilleur bilan. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui justement ces panneaux quand même ont des durées de vie importantes et que donc il n'y a pas besoin de les renouveler trop souvent. Et puis on peut aussi se dire qu'avec les évolutions actuelles, évidemment que ces technologies vont continuer d'évoluer et de devenir plus vertueuses peut-être que ce qu'elles n'étaient. Dans l'avenir, ça va être obligatoire. Je crois que cette transition, elle devient de plus en plus impérative.
C'est sûr que si on fait le ratio énergie fossile et énergie renouvelable, il n'y a pas photo. Vous avez anticipé tout à l'heure la question en parlant de la région. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par les pouvoirs publics ou vous aimeriez qu'ils en fassent plus, sachant qu'aujourd'hui, l'écologie, les énergies renouvelables, etc. Devraient être au centre des débats?
Oui, alors là, évidemment, bien sûr, et c'est vrai que on se dit que les mentalités n'ont pas encore suffisamment peut-être bougé pour se rendre compte que la priorité, elle est là, hein, elle est sur comprendre qu'on n'a qu'une planète, qu'on a donc intérêt à gérer au mieux tout ça et à pas éviter d'engager des conflits justement à ces sujets, parce que malheureusement on voit bien que c'est aussi ce qui peut se passer. Alors sur l'aide des pouvoirs publics, ben c'est vrai que la région Occitanie s'est engagée à être la première région à énergie positive, donc elle a ce souhait d'essayer de développer tout ça. Il faut savoir, mais bien sûr à la vitesse possible, je dirais aussi. On ne peut pas du jour au lendemain créer aussi des installations absolument partout. Mais il faut savoir aussi qu'on fait partie d'un autre regroupement sur le département du Gard, de différentes coopératives comme ça qui se sont mises en place depuis un certain nombre d'années, alors pour notre part sur le Gard, hein, et cette organisation est soutenue aussi par la région pour se dire voilà comment développer et comment aider à développer ces énergies citoyennes. Alors il y a aussi, il faut savoir que c'est également quelque chose qui est ouvert aux collectivités, donc c'est aussi une grande partie de notre travail entre guillemets que de rencontrer des collectivités et leur proposer aussi de faire des installations sur les toitures des bâtiments publics. Un petit peu commencé, il y a des projets en cours, le cas de Saint-Julien-des-Points en est un. On a d'autres projets sur le secteur avec d'autres collectivités, notamment je pense à un hangar à bois, un bâtiment d'une association aussi, voilà. Donc ça se fait peu à peu. On a aussi, dans une installation qui fonctionne déjà, on est sur la toiture d'une petite entreprise, hein, je dirais. Voilà, il faut essayer de proposer ça partout, tout en étant vigilant, effectivement, bien entendu, éviter les installations sur des terres, notamment agricoles. Il y a aussi derrière toute cette démarche, évidemment, une certaine éthique de ces installations.
Et justement, des panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment du pôle agri-alimentaire de Saint-Julien-des-Points. Voilà le prochain projet du collectif Cévennes Durables. Auditeurs, auditrices, si vous voulez les rencontrer, c'est ce mardi à 18h30 à la salle polyvalente du Collet d'Aise. Les infos, et si vous voulez en savoir plus, c'est cévennes-durables.fr. Merci beaucoup, Florent Choquet.
Merci.
On vous souhaite le meilleur et une bonne journée. À bientôt.
À vous aussi. Au revoir.
C'est lundi et comme tous les 15 jours, Raphaël est avec nous. Salut Raphaël.
Salut à tous.
Alors, qu'est-ce que tu vas me mettre aujourd'hui? Encore une bonne tannée?
Non, que la vérité.
T'es chaud?
C'est parti.
On y va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein?
Histoire brève.
Monsieur de Paris, je crois savoir que vous êtes un grand sportif. Après tout, je crois savoir que vous vous êtes récemment blessé à la cheville en jouant à FIFA. Osez dire que ce n'est pas vrai. Étrangement, les gens ont tendance à ne pas croire les révélations sur votre personne que je fais tous les lundis matins. J'aimerais donc que vous disiez à tous les Français qui nous écoutent que je ne dis que là que la vérité.
Ah, ça c'est la vérité en plus. J'ai rien d'autre à dire. Moi, c'est pas le pouce, c'est la cheville, c'est sûr.
Bref, revenons à mon propos. Votre amour pour le ballon rond n'a pas de limite et vous êtes capable de tout pour pouvoir exercer votre passion et éblouir de votre talent l'écran de votre salon. J'imagine les pompons girls vous encourager avec entrain et la foule de vos amis se lever alors que vous foncez vers le but adverse, dribblant vos adversaires par une combinaison dont vous avez le secret. L2, barre, roulette, joystick gauche. Dommage que vous n'ayez pas persisté sur la voie de l'excellence pour rejoindre les meilleurs et qui sait, refaire l'histoire de l'équipe de France, du football et pourquoi pas du monde, soyons fous. Parce que parfois le foot peut avoir et même souvent une forte portée politique que nous ne devons pas minorer. Prenons par exemple le cas de ce match, sans doute l'un des plus incongrus de l'histoire de football. Nous sommes en 1973 au Chili. Le gouvernement socialiste de Salvador Allende est au pouvoir, mais connaît de grandes difficultés. Notamment parce qu'il ne fait pas bon avoir des idées de gauche, voire d'extrême gauche, sur le continent américain où plane l'aigle américain, qui se pose dans le cadre de la guerre froide comme le pourfendeur de la menace communiste partout dans le monde. Et pour cause, les États-Unis se méfient de ce président chilien. La CIA n'hésite d'ailleurs pas, pour fragiliser sa population, sa position, à financer des manifestations massives qui paralysent le pays et aggravent l'inflation. Le 11 septembre 1973, l'armée dirigée par Pinochet et soutenue par les Américains attaque le palais présidentiel de la Moneda à Santiago du Chili. L'attaque d'une grande violence conduit à l'assassinat du président Allende, qui avait été pourtant élu démocratiquement. Pinochet devient le nouveau chef du gouvernement et met sur pied une dictature dont il reste à la tête jusqu'en 1990. Immédiatement, des milliers d'opposants sont arrêtés et envoyés dans la seule grande infrastructure fermée digne de ce nom, l'Estado Nacional. Je vous fais la traduction, monsieur de Paris. Il s'agit du Stade National de la capitale, reconverti pour l'occasion en camp de concentration. Citons le cas par exemple de Victor Jara, artiste soutenant Allende, arrêté le 11 septembre avec d'autres intellectuels et maintenu captif dans le stade où il est torturé, je vous passe les détails, et finalement assassiné dans de terribles conditions. Or, ironie de l'histoire, ce stade est censé accueillir un match éliminatoire pour la Coupe du Monde de 1974 entre le Chili et l'URSS. L'équipe soviétique refuse alors de se rendre au Chili pour ce match, qui doit se disputer le 21 novembre 1973 en signe de protestation contre le coup d'état de Pinochet. Pour autant, malgré l'absence d'une des deux équipes, la FIFA refuse d'annuler le match pour éviter tout recours juridique. Le jour J, le stade ouvre donc ses portes pour laisser entre 15 000 et 18 000 spectateurs qui sont venus admirer leur équipe nationale. L'arbitre autrichien siffle le début du match sous les hurrahs de la foule. L'équipe chilienne engage donc le coup d'envoi du match et après de magnifiques combinaisons de passes à 2 mètres, fend le terrain vide et s'en va marquer très rapidement un but par Fernand Francisco Valdés dans les cages vides. Faute d'équipe soviétique pour réengager la partie, le match prend fin aussitôt. La FIFA récompense le Chili, qualifié d'une victoire par tapis vert, 2-0, tandis qu'elle notifie une disqualification à l'URSS en raison de sa non-présence sur le terrain. Ce match est en ligne sur YouTube et vous pouvez le regarder dans son intégralité devant une mini-bière en admirant l'un des épisodes les plus grotesques de l'histoire du football. Comme quoi, monsieur Duparis, même vous n'auriez pas pu atteindre un tel niveau de ridicule sur un terrain. Pas même en vous foulant un pied devant FIFA 2020.
Ah, dans ce flot de bêtises, il y a quand même beaucoup de choses passionnantes et intéressantes. Merci beaucoup, Raphaël. Changement de sujet, dans un instant on part à la rencontre d'Adrien Cornadja, j'ai légèrement écorché son nom dans l'intro, je m'en excuse. On continue d'abord avec Moustaki, les eaux de Mars cette saison.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire.
Adrien Cornet.
Dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un
chemin qui chemine, ça reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tout au fond, par épais. Et on fin do camino, et on reste di toc, et un poco sozinho, par une pierre, chemin qui chemine, reste de racine, c'est un peu solitaire, par une pierre, chemin qui chemine, reste de racine, c'est un peu solitaire.
Adrien Cornagia, j'ai 40 ans, je viens de Normandie, et j'écris du théâtre.
Tania Rose Abali.
Extrait de Faire l'amour de et par Adrien Cornagia, paru aux éditions théâtrales.
15 rue de la Maison Rouge, 94 120 Fontenay-sous-Bois, téléphone 07 89 65 44 32, mail tamititan@gmail.com, code Sauveur 12, carte d'identité numéro 15 09 94 21 46 45, j'existe.
Là, nous sommes à la Ronceret à Saint-Laurent-de-Trèves, où vous venez de faire une lecture de trois de vos œuvres, en tout cas deux oui. qui ont été publiées, une qui est en cours, comme vous disiez, un peu stressée,
oui.
parce que c'est un roman, c'est jamais facile. Est-ce que l'exercice de lecture vous plaît, le partage ici, ou alors est-ce que vous considérez que l'écriture est un plaisir solitaire ?
Non, surtout pas. Non, non, non. Moi, j'aime beaucoup la lecture haute voix. Je l'ai déjà pratiqué nombre de fois, soit tout seul, soit avec des camarades d'écriture, ou des comédiens ou des comédiennes. Et non, non, c'est pas un exercice solitaire, d'autant que moi, par exemple, même quand je lis pour moi un roman, dans mon lit tout seul le soir, si je suis tout seul, pas accompagné, je peux lire à haute voix, par exemple, je sais pas. Je trouve que c'est nécessaire pour ressentir autrement une langue, son rythme, ses espaces de silence, etc. Voilà. C'est le plaisir aussi de se mettre dans la peau d'un personnage, tout simplement.
Vous disiez que vous travaillez beaucoup sur commande pour les pièces que vous avez écrites.
Oui.
Est-ce qu'elles sont toutes éditées, vos pièces, ou alors
non.
celles qui sont commandées
Non, elles ne sont pas toutes éditées. Mon éditeur théâtral en a publié, si je ne me trompe pas, 4 jusque-là. Et une autre Corrida qui est éditée par En Acte.
Elles sont disponibles où vos pièces éditées ?
Bah, soit en librairie, soit sur commande auprès de l'éditeur.
Voilà. Allez chez le libraire.
Oui, 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 il faut aller chez son libraire, évidemment.
Bayin, Adrien Cornagia, paru aux éditions théâtrales.
Les bruits d'une nature se muent peu à peu en ceux d'une cuisine où bat le plein service. Les commis sont à pied d'œuvre. Aucun ne chôme. Les métalliques frissonnent de jus, de sauce et d'huile. les viandes bondissent, les poissons clapotent, les légumes de saison frémissent, tandis que l'on perçoit la rumeur d'une salle égayée. La radio est allumée. Sacha Serpollet exprime des abricots dans un mortier. Voix des cuisiniers. On met les gaz, les gouillas, les graissins pour la Toscane, on met les ficelles. Qui sait qui m'a pas mis les poubelles, Sacha? On arrose les patates en joie, ça dessèche. Pas tout, les poubelles. C'est toi qui a pas mis les poubelles. Le moula cake, Sacha. Le moula cake, nom de Dieu. C'est quand même une belle pétasse, la mère tatin. Je peux pas, Sacha. On me verse une poivreuse dans un godet, please. J'ai un poulet gras à patouiller. Et on trempouille. Sacha, je peux pas. Sacha, quoi? Non, pas trempouille, patouille. Je peux pas couper la tête à la bestiole, Sacha. Les haricots fraîches de bourre, dans, sans les lardons ou avec? Faut être con, quoi, Sacha. Tu me purges les écrevisses, Francis. Sacha, au verjus, si ça te chante. On est à combien de bouches, là? Les poubelles, pétard de sort. Sacha, quoi? Patou va nous les mettre, hein, Patou? La tête au poulet, Sacha. Les plastiques pour le Patou. Chaud, chaud, chaud. Vas-y, Patou, vas-y, Patou. Sacha, la tête. Vas-y. Quoi, la tête? Pourquoi tu lui couperais pas la tête? La tête, c'est le meilleur. C'est le morceau de qualité. Imagine comme les yeux sont bons. Et le bec qui a trempé dans la graine et dans la terre et le gosier, gras, élastique. Tu nous dois une bonne décapitation.
Quel conseil vous donneriez, vous qui travaillez avec les adolescents, collégiens, lycéens, quel conseil vous leur donnez en fait quand vous les voyez, s'ils ont envie d'écrire?
S'ils ont envie d'écrire, déjà c'est oser. Voilà, c'est ne pas viser, je crois que c'est pas viser la perfection. Alors c'est bien de se mettre des objectifs, évidemment. Moi-même, quand j'ai commencé à écrire ado, je me mettais des objectifs. Mais non, c'est surtout le faire avec plaisir, le garder ce plaisir. Voilà. Et surtout que quand on devient un professionnel, entre guillemets, de l'écriture, on a tendance parfois à l'oublier, ce plaisir. Et je trouve ça fort dommage. Donc, puis c'est lire aussi, enfin, je crois. Puis c'est surtout vivre, en fait. Enfin, c'est faire l'expérience de la vie dans tout ce qu'elle a de merveilleux et de tragique. Et d'essayer de le rendre par une écriture. Et puis ça met du temps, tout ça. Il faut être patient pour trouver sa langue, trouver son écriture. Donc c'est faire œuvre de patience, et puis si jamais ça devient plus sérieux, c'est faire preuve d'endurance aussi.
C'est sûr.
Durant le trajet, le ciel défile comme un manège et les étoiles donnent l'impression qu'elles vont au lit avec moi.
Roman en cours de et par Adrien Cornadja.
Puis les mains au bout de ses bras me caressent le front, me trient les cheveux, remontent les draps jusque sur mes épaules, et des lèvres viennent écraser un bisou sur la tempe. Dans ces cas-là, j'oublie MJ sans m'inquiéter. J'imagine qu'il ne s'est même pas réveillé là-bas et qu'il roupille sous sa tripotée de ballons célestes, les bras toujours en suspension. MJ aurait voulu aller dans l'espace, c'est sûr. Il me parle souvent de voyager vers Mars, de jeeps de l'espace pesant presque une tonne, de pesanteurs dégradées, de fleuves gelés, de montagnes 3, 4 fois, 5 fois plus hautes que le monde des Vèpres, de lunes multiples, d'anneaux de roches entre lesquels lui et moi, on passerait tout juste dans notre vaisseau intersidéral nommé le Risque-Tout. C'est sûr, MJ n'est pas à sa place dans l'herbe tiède, ni partout ici. Mais au moins, il sait qu'elle est ailleurs. Il sait exactement où elle se trouve, sa place. Et toutes les nuits, il regarde vers elle, je crois. MJ mesure 1m98, pèse 98 kg et n'a plus un seul cheveu sur le crâne. C'est mon ami depuis longtemps. Quelquefois, je me demande pour combien de temps encore.
Petite dernière question, oui. Lors des confinements qu'on a vécu, voilà, le livre non essentiel, finalement, j'ai l'impression que ça lui a fait bonne pub, parce qu'il est justement revenu au milieu d'un débat en disant « non mais c'est essentiel », et beaucoup de gens se sont battus. C'est quoi votre sentiment par rapport à tout ça? Essentiel, non essentiel, ce débat?
C'est une question en général, j'évite de parler politique. Mais je sais pas, je trouve que c'était une manière de voir le monde très hypocrite, tout simplement. Voilà, en quoi un libraire est moins essentiel qu'un supermarché, je vois pas. Voilà, non, je... Mon avis, c'est que je suis très las et énervé de la chose politique, donc c'est pour ça que j'évite d'en parler, que je suis très mal à l'aise avec ça et que j'ai pas les mots pour en parler. Et j'ai que des sensations de colère et de frustration à leur égard, à ces hommes, parce que ce sont des hommes.
C'est une forme de réponse. La dernière question quand même, allez. Allez. Pour les 10 000, mais quand même vous sortez de lecture, en tout cas merci de prendre ce petit temps avec nous.
C'est normal.
Comment vous définiriez votre écriture, si tant est qu'elle doit être définie?
Quotidienne, réaliste, poétique.
Merci beaucoup Adrien.
Merci.
À bientôt.
Bah oui, bah ça arrive, c'est comme ça. Ben voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci Corto, on a failli s'endormir.
Pas de rien, ouais, effectivement, il y a eu un petit blanc. Un petit blanc,
désolé, ça arrive. On était à toute autre chose. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve mercredi pour une nouvelle matinale avec l'équipe de L'Encrier et la chanteuse Garance qui joue cette semaine à Meyruès et à Saint-Enimy jeudi dans le cadre du Printemps des Poètes. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée sur le 107. On se quitte avec le Metek Moustaki. À mercredi, portez-vous bien. Ciao.
Avec ma gueule de Metek, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.